actuel, hein, on va dire ça comme ça, ce Dieu, crucifie-le ou fais-le mourir sur une croix. Bah, je trouve que c'est dur comme ça. Celui que c'est pas aussi. On a dit depuis, pour ceux qui ont, se souviennent et qui ont relu les versets précédents, les chapitres précédents, le cheminement qui a conduit Jésus à cette presque dernière étape de son passage sur terre. Ça, c'est un texte fort pour les mots. C'est un texte fort, un texte prenant. C'est un texte qui est unique. C'est un texte qui est intense émotionnellement. C'est un texte qui est cruel, qui est même révoltant, mais ô combien aussi intéressant sur la nature humaine, celle de Jésus, sur la prise de position de l'humain et sa responsabilité morale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir c'est qui se trouve dans ce texte. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Pourquoi toute cette agitation autour de Jésus ? Et quelles en sont, bien sûr, les conséquences ? Donc je vous invite à écouter ça cet après-midi. Nous allons essayer de voir un petit peu tout ça. Alors, qui sont les personnages ? En gros, on trouve les anciens, les scribes, tout le Sanhédrin, tous les chefs religieux, les sages, autant dire, Pilate, on voit aussi les soldats, la foule, et bien sûr, pour nous, le personnage principal, mais pas forcément le plus loquace, c'est Jésus. Pilate, personnage et personnalité de Pilate. Pilate, il représente l'occupant. Là, c'est pas un juif, c'est un romain. Là où vivait le peuple juif était envahi par les romains. L'étranger. Mais Pilate, c'était aussi l'autorité civile. C'était aussi le pouvoir. Il avait toute autorité et tout pouvoir. Que connaissait-il de la Torah, de la Bible, des traditions juives ? Et là, on va lui demander de juger, de trancher, de donner un verdict, une sentence contre un personnage qu'il ne connaît pas ou peu. Pilate va se trouver confronté à un dilemme. Condamner ou relâcher Jésus. Coupable ou innocent. Oui, non. Blanc ou noir. Il n'y a pas de milieu. Que va-t-il reconnaître en Jésus, ce Pilate ? En tout cas, quand on est bien attentif à ce texte, on voit que par trois fois, il parle de Jésus en tant que roi des Juifs. Étonnant quand même, hein. Alors, est-ce que c'est de l'ironie pour titiller un petit peu ces chefs religieux, ou est-ce que c'est du discernement ? S'il reconnaît alors Jésus comme le roi des Juifs, il est juge, hein, Pilate. S'il reconnaît Jésus comme le roi des Juifs, alors c'est un adversaire, Jésus. C'est un chef à garder sous les verrous pour éviter qu'il ne dirige le peuple contre lui, quoi, les Romains. N'est pas coupable Jésus. Aucune importance. Mais en auditionnant Jésus, Pilate est troublé. Parce qu'il ne trouve rien de répréhensible. Pilate a le pouvoir de décider, hein. Encore une fois, c'est l'autorité. Mais il ne prend pas ses responsabilités. Il cède sous la pression des chefs religieux et de la foule en furie. Alors là, il était confronté aussi à choisir entre la répression, si le peuple se soulève, la guerre civile, ou la lâcheté, le lâcher prise, après tout, faites ce que vous voulez avec ce Jésus. Dans ce texte, on n'en parle pas, mais il y a un personnage que l'on voit dans les textes parallèles. Là, j'essaye de guiser un petit peu votre curiosité d'aller dans les autres évangiles. Et vous allez voir, il y a un personnage qui n'est pas cité et qui est très important. C'est l'étonnante et surprenante attitude de la femme de Pilate, qui est venue avertir son époux que quelque chose qui les dépassait était en train
de se passer avec ce Jésus. Dans Matthieu, donc je vous guide, Matthieu 27, 19, « Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Ironie ou discernement, tout à l'heure on disait de Pilate. Je pense que sa femme a eu un discernement. Sans peut-être savoir exactement, mais qu'il n'y ait rien, c'est-à-dire ne prends pas part. Autre personnage, bien sûr, Jésus. Une fois avoir confirmé à Pilate, la seule et unique phrase, trois mots, tu le dis. Il ne répond plus. Silence. Silence. Jésus ne répond plus rien. Là, on voit qu'ils ont lié Jésus, peut-être par peur qu'il se sauve, comme si Jésus avait besoin d'être lié pour se sauver, même s'il l'était, qu'est-ce qui l'aurait empêché? Ou pour humiliation et montrer, en fait, qu'il est considéré comme un malfaiteur? Jésus aurait pu se libérer, mais il le reste par amour, par obéissance. Pourquoi ce silence de Jésus? C'est intriguant. Quand je vous disais que ce texte il est intriguant aussi. On n'a pas d'autres détails sur cette comparaison devant Pilate. Le Seigneur a choisi de rendre témoignage à la vérité et n'ouvrira pas la bouche selon la parole que l'on retrouve dans Psaume 38, verset 13. « Comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. » Mais il a répondu à la question. On lui a posé une question à Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Tu le dis. Il n'a pas dit je le suis. Je. Tu le dis. C'est subtil. Jésus ne provoque pas. Il n'y a pas d'orgueil dans sa réponse. Simplement, il acquiesce être d'accord avec ce qu'on le dit de lui sur ce sujet-là. Et puis dans Ésaïe, chapitre 53, verset 7, il a été opprimé et affligé et il n'a pas ouvert sa bouche. Comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Ésaïe avait été très inspiré par la venue de Jésus, par son parcours, par son message et par ce qu'il allait se passer sur la fin de sa vie. Il est question aussi de la foule, la foule. Vous savez, c'est le fameux « on ». On était là, on a vu. La foule, elle est rassemblée par les chefs religieux pour faire pression sur Pilate. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'elle fait, la foule? Vous savez, parfois, on parle de mouvement de foule. On entend un truc, ça y est, tout le monde se met à courir. Ou tout le monde se met à crier. Parce que quelqu'un a déclenché quelque chose. Et là, on a excité la foule. Peut-être qu'on a payé la foule. Peut-être qu'on lui a promis quelque chose. On ne sait pas. Mais en tout cas, on a manipulé cette foule. Les chefs religieux ont manipulé la foule. Ils ont excité la foule. Ils avaient leur intérêt parce qu'ils voulaient garder main mise sur le peuple. Ils ne voulaient pas de quelqu'un qui venait pour libérer le peuple, parce que Jésus était venu pour libérer. Eux, ils ne voulaient pas un peuple libre, ils voulaient un peuple qui puisse se mener. Autre personnage, bien forcément, les chefs religieux. Depuis quelque temps, quand on regarde bien sûr tous les chapitres et les versets d'avant, les chefs religieux, ils n'ont eu de cesse de provoquer Jésus. Pour lui tendre des pièges, cherchant surtout à l'éliminer afin de conserver leur autorité, leur pouvoir sur le peuple. Au début, c'était de la curiosité, et puis on voit au fur et à mesure que de la curiosité, ils veulent en fait se débarrasser de Jésus. Ils cherchaient le moyen de l'accuser. Ils cherchaient le moyen de l'éliminer. Et là, en fait, On découvre, en étudiant bien le texte et les autres textes, hein, pour bien voir ce qui se passe, où est-ce qu'ils sont les chefs religieux au moment où Jésus comparait devant Pilate. Ils sont où? Ils sont pas là. Ils sont dehors. L'évangile de Jean rappelle que les Juifs, par scrupule, hein, là on le retrouve dans Jean, ils n'ont pas voulu entrer au prétoire pour ne pas se souiller. Ah! Jean, chapitre 18, verset 28, manifestant ainsi leur hypocrisie religieuse. Ils n'ont pas voulu assister à l'entretien avec Jésus. Pour ne pas se retrouver dans le même lieu, hein, pour ne pas se retrouver accusé ou mouillé, comme on dit, complice, voilà, complice direct. En fait, ils n'étaient pas complices parce qu'en fait, ils poussaient la foule. Est-ce qu'on en est arrivé là? Jésus avait averti ses disciples, hein, souvenez-vous, Marc 10, 33. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voilà ce qui devait arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes et ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens. Mais aussi et surtout pour accomplir son destin et son sacrifice suprême de mourir à ma place pour mes péchés sur cette croix. Personne en se faisant crucifier ne peut se libérer de ses péchés. Seul Jésus peut le faire. Mais Jésus s'est déjà fait crucifier. Il a déjà payé le prix. Ensuite, pourquoi cette agitation? Alors, l'activité des hommes est fébrile, hein, de bon matin, des choses et des affaires importantes à régler et à faire se font très tôt le matin, à la fraîche, quand on est bien disposé, quand on a toutes les facultés. À la fin de la journée, on est un peu fatigué. Mais là, le matin, après le repos, on est au taquet. Mais comme le faisait aussi souvent Jésus, hein, Jésus nous montre l'exemple, pour aller s'isoler et prier. Mais en fait, ici, hein, de bon matin, c'est le pouvoir des ténèbres qui va se mettre en action. Pourquoi cette agitation? Quels sont les faits qui sont reprochés à Jésus, en fait? Est-ce qu'on s'est posé la question? Rébellion, incitation à la révolte. Dans Luc chapitre 23, donc verset 2 à 5, ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, ah, empêchant de payer le tribut à César. » Ah bon? Et se disant lui-même Christ roi. Jésus a juste dit, hein, quand on lui a demandé est-ce qu'il faut payer l'impôt, rendez à César ce qui est à César et à Christ et à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'a pas dit de ne pas payer l'impôt. Sinon, peut-être que nous, on se baserait sur ça et on ne paierait pas nos impôts. Il ne serait pas content, hein, M. Macron. Hein. Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Mais je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Pourtant, il n'a pas de parti pris, hein, Pilate. Hein. Lui, il va au fait, comme un juge. Quand on amène quelqu'un, je ne vais pas dire un coupable, mais quand on amène quelqu'un devant le juge, il y a l'avocat du prévenu et l'avocat de la partie civile. Bon, ben voilà, quels sont les faits? Qu'a-t-il fait? Il a fait ceci, il a fait cela, et le juge statue. Et là, le juge, Pilate, dit, mais moi, je n'ai rien trouvé. Quand un juge vous dit, mais moi, j'ai rien trouvé, qu'est-ce qu'il fait? Il libère. Il n'y a pas de condamnation. Mais ils insistèrent et dirent, mais c'est lui qui soulève le peuple. C'est lui qui enseigne partout dans la Judée. Depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Ah oui, et qu'est-ce qu'il a enseigné Jésus? Quand on relit dans Matthieu, la foule qu'il suivait, les béatitudes, le sermon sur la montagne, et puis Jésus, il n'a pas nourri la foule deux fois. Il n'a pas guéri les malades, les paralytiques, les possédés, les malades, les aveugles, les sourds, les muets. Ah bon, il a incessamment incité le peuple à la révolte? Bon. Luc 23, 14. Vous m'avez amené cet homme comme m'excitant la foule à la révolte, et voici, je l'ai interrogé devant vous. Et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Fort quand même, hein. Hérode non plus. Oui, parce que Jésus n'a pas vu Pilate, hein. Il en a vu d'autres avant. Il a vu Hérode. Hérode n'a rien trouvé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Jésus avait été amené devant Caïphe, souverain sacrificateur, puis à Pilate, gouverneur romain, puis à Hérode, le tétrarque, puis de nouveau à Pilate. Et à chaque fois, tout le monde est bien embêté parce qu'on voit que chacun se renvoie la balle. On essaie de trouver quelqu'un qui va trouver quelque chose, une accusation, le petit truc qui ferait que, oui, peut-être que Jésus est coupable. Mais en fait, personne n'a rien trouvé. Pilate lui dit, voici de combien de choses il porte témoignage contre toi. On l'a vu, hein, il pousse, il enseigne, Mais Jésus répond pas un mot. Ce qui étonna fort Pilate, et l'embarrassa sans doute, bien sûr qu'il était embarrassé Pilate. Mais qu'est-ce que serait changé le fait que tu le dis ou je le suis? Peut-être que Pilate ne l'aurait pas pris comme ça, mais en tout cas, tu le dis. Car il aurait aimé que Jésus se défende, qu'il explique. Voilà qui je suis, voilà pourquoi je suis venu, voilà ce qui va se passer. Pilate aurait aimé de l'aide de Jésus. Il trouve rien. Jésus n'est pas coupable, il trouve rien. Et alors ça agace les chefs religieux. Ils disent non, il faut trouver quelque chose. Il faut que Jésus soit coupable. Il faut trouver un péché en Jésus. Sauf que Jésus est sans péché. Et alors, dans Matthieu 27, Pilate leur dit, mais qu'est-ce que je vais faire de Jésus maintenant qu'on appelle Christ? Et tous répondirent, qu'il soit crucifié. Hein. Crucifie-le, débarrasse-toi-en et débarrasse-nous-en. On n'en veut pas. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Alors il redit encore, mais donnez-moi des détails sensés. Mais il criera encore plus fort, et encore. On sent que la tension monte dans le peuple. Hein. Ça commence à bouillir, à bouillonner. Hein, ça, c'est la grosse manif. Là, on sent que le peuple, il est prêt à jeter des pierres. Là. Il est prêt à tout casser. On est prêt de la guerre civile. Pilate, il n'en veut pas. Il veut sauvegarder sa réputation. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, il prit de l'eau, symboliquement parlant, pour dire, voilà, je m'en lave les mains. Aujourd'hui, cette expression, elle existe encore. Oh, moi, je m'en lave les mains, moi. C'est-à-dire, je suis absolument pas responsable de ce qui se passe, de ce que vous faites. Sauf qu'on lui a demandé de juger. Donc, il se lave les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. En plus, Pilate rajoute que Jésus est juste. C'est injuste. Enfin, c'est injuste en deux mots, hein. Mais c'est injuste aussi en un seul mot. C'est injuste de crucifier ce Jésus qui n'a rien fait. Cela vous regarde. Débrouillez-vous. Moi, je ne connais rien à toutes vos histoires. Vos salades, là. Christ, Jésus, roi des Juifs. Non. Mais par contre, je ne sais pas ce qu'il a fait de mal. Et le peuple, le peuple crie quelque chose de terrible. Pour ça, je vous dis qu'il est terrible ce texte. Parce qu'il dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est terrible. Alors déjà, de dire que son sang retombe sur nous, vous imaginez que le sang de Jésus retombe sur moi, bonjour la condamnation. Et en plus sur les enfants. Comme ça, tout le monde prend. Quelles sont les conséquences? Ben pour sortir de l'embarras dans lequel le plaçaient les accusateurs, en fait, les souverains sacrificateurs, ils ont piégé Pilate. Il y a une phrase que nous avons lue, qui dit que Pilate savait que Jésus avait été livré par envie, par méchanceté. Mais Pilate offre quand même, je dirais, une dernière chance, si on peut parler de chance, une dernière possibilité de se racheter, de prendre conscience que, on n'est pas en train de délirer là, on est en train de demander de crucifier Jésus. Et il leur dit, c'est vraiment ce que vous voulez? Je vous offre de libérer Jésus. Selon la coutume. On était dans la coutume de relâcher quelqu'un, de gracier quelqu'un, quel que soit ce qu'il ait fait. Mais cette proposition, elle a été repoussée et le peuple a préféré dire, libérez-nous un vaurien, un bandit, un assassin, un meurtrier. Bon, Barabbas, il a dû se dire, peut-être qu'il s'est dit un innocent pris ma place. Est-ce qu'il se l'est dit? En tout cas, il a dû le vivre. Après, on n'entend plus parler de lui. Souvenons-nous encore une fois, et je vais terminer là-dessus. Jésus avait nourri la foule, l'avait guéri. Il avait fait tellement de choses pour cette foule. Et aujourd'hui, cette foule, elle le rejette, elle le condamne. Elle l'accuse pas la foule, hein. Elle dit juste crucifie-le. Crucifie-le, débarrasse-nous-en, on n'en veut plus. Donc, pour respecter les Écritures, Pilate fait fouetter Jésus, comme c'était la tradition. Dans Ésaïe, chapitre 50, on revient encore une fois à Ésaïe, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage, je n'ai pas tourné la tête, ni aux ignominies, ni aux crachats. » Il a été frappé, bafoué, insulté, traité, martyrisé. On l'a dépouillé. La valeur de Jésus était de 30 pièces d'argent. Hein, c'est le prix que Judas avait eu pour livrer Jésus. Bon, c'est ce qui est arrivé à Judas après. Hein. Et là, maintenant, on lui préférait un meurtrier, Barabbas. Conclusion. On voit en Pilate ce qu'est l'homme gouverné par sa propre importance. Au mépris de la justice, il fait taire la voix de sa conscience. S'il avait relâché Jésus, vous pensez que c'est le peuple, il n'était pas à maîtriser le peuple? Pilate ne pouvait pas maîtriser le peuple? Mais il n'a pas voulu s'élever au-dessus de l'opinion. Il a ignoré l'autorité qu'il représentait, cette autorité qui est donnée par Dieu. Mais que dire des Juifs qui connaissaient le vrai Dieu, qu'ils avaient eu devant eux toute la vie de Jésus comme témoignage de sa perfection? Et là, ils forcent la main d'un païen pour se débarrasser de lui par envie, par orgueil, par méchanceté. C'est l'œuvre de la chair, qui cherche toujours à se débarrasser de ses responsabilités. Hein, c'est pas moi, c'est l'autre. Puis je m'en lave les mains maintenant, débrouillez-vous. C'est comme dans la Genèse. Hein, dans la Genèse, qu'est-ce qui se passe, hein, avec le serpent? L'homme dit, c'est pas moi, c'est ma bonne femme. Je vais dire ça comme ça. Hein, parce qu'après tout, je sais pas comment ça s'est passé, mais quand on commence à rejeter la responsabilité sur l'autre, On le dévalorise. C'est pas moi, c'est ma femme. Allez, reprenons le terme. Et la femme dit, c'est pas moi, c'est le serpent. On reviendra, on aura l'occasion peut-être un jour de, hein, lors d'une prédication, de revenir un peu là-dessus, ce qui s'est passé. Tous les hommes sont ainsi représentés dans cette scène. Les hommes, les femmes, hein, parce qu'on est tous là. Hein. Et chacun prend sa place et sa responsabilité devant ce Jésus, devant le roi des Juifs, devant ce Christ. On l'a tous crucifié. Mais lui, il a payé le prix pour tout le monde, même pour ceux qui l'ont craché dessus, même pour ceux qui l'ont accusé injustement. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, que nous ayons vraiment toujours à l'esprit la façon dont Jésus s'est retrouvé devant ce tribunal. Il aurait pu tous les chasser devant lui. Il n'avait qu'un mot à dire, mais il ne l'a pas fait. Il a accompli son destin. Il s'est sacrifié pour nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.